Bonjour, je suis Christelle Rebière, je présente habituellement RTL Midi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast hebdo, Ensuite.
Bonjour, je suis Catherine Mangin. Chaque semaine, nous nous arrêtons sur un événement, un geste, une image, une nouvelle tendance pour comprendre ce qu'il raconte de notre époque très particulière.
Inceste, définition du Larousse. Relation sexuelle entre un homme et une femme liée par un degré de parenté entraînant la prohibition du mariage. Derrière cette définition classique, presque clinique, des siècles de souffrance, de violence et de silence. L'inceste est un tabou, c'est l'interdit ultime, mais c'est aussi l'histoire d'une domination sur laquelle nous allons revenir.
Aujourd'hui, dans notre pays, une personne sur 10 affirme avoir été victime de violences sexuelles durant son enfance. Résultat d'un sondage Ipsos pour l'association Face à l'inceste, car 80% de ces agressions ont lieu dans le cercle familial. Les victimes ne parlent pas, ne sont pas crues ou rejetées et l'entourage se tait. Camille Kouchner, avec la Familia Grande, vient de retrouver la parole pour dénoncer ce beau-père qui s'en est pris à son frère jumeau.
Dans Peau d'âne, la princesse finit par échapper au désir incestueux de son père. Le conte de Charles Perrault a été écrit en 1694. Mais si on cherche les origines de l'inceste, eh bien on se retrouve dans l'Antiquité, avec le mythe d'Œdipe qui tue son père et épouse sa mère sans le savoir. Toutes les sociétés du monde, absolument toutes, rejettent l'inceste. C'est un interdit universel qui traverse le temps, les époques et les classes sociales.
Il y a eu de rares exceptions. L'Égyptien Toutankhamon, dont nous avons découvert le trésor récemment, est le fruit du mariage de son père avec sa sœur. Lui-même a épousé sa demi-sœur. Mathieu Lacambre est psychiatre au CHU de Montpellier, spécialiste des violences sexuelles sur les enfants. Alors si l'on s'attache un instant à cet aspect historique, il s'agissait de revendiquer une forme d'élitisme, de concentrer la légitimité de la famille royale et de manifester sa puissance. La puissance, nous y sommes, sur les autres d'abord, dans ce cas précis, si on comprend bien.
Probablement que sur le plan historique, anthropologique, dans les évolutions de l'inceste, au sens d'une relation sexuelle intrafamiliale, il y a eu des évolutions notables qui nous renvoient au début de l'organisation des systèmes humains. On définira ensuite les notions peut-être d'inceste, d'endogamie, exogamie, etc. Mais dans cette évolution, à partir de groupes humains préhistoriques où les relations sexuelles, pour des histoires de survie, tout simplement, pouvaient se jouer à proximité, dans des groupes familiaux, il y a eu une évolution très très lente. Et dans des groupes humains qui ont évolué en fonction des zones et des territoires géographiques, avec des organisations sociales et anthropologiques, parfois c'était des familles royales qui maintenaient, je mets des guillemets, ce privilège de la relation sexuelle intrafamiliale. Alors chaque groupe humain a évolué et a gardé souvent une trace anthropologique de l'inceste, comme si c'était une forme de transition entre la préhistoire et des époques un peu plus avancé. D'ailleurs, Lévi-Strauss évoquait la notion du tabou d'inceste comme une notion qui permettait de passer de la nature à la culture, voire à la civilisation. Et donc, du coup, dans ces actes de civilisation, certaines cultures avaient gardé comme ça des petits noyaux incestueux.
Alors, inceste du latin incestus signifie impur. De quelle impureté parle-t-on ? Est-ce qu'il s'agit d'une impureté biologique, la consanguinité, ou bien d'une impureté morale ?
La vérité, je la connais pas, il y a plusieurs hypothèses. Toujours est-il que, par exemple, incestus, l'antonyme, c'est castrus, et ça renvoie au castre, c'est-à-dire à une dimension comme ça privilégiée d'un groupe social. L'inceste, donc l'impureté, renvoie probablement à quelque chose de l'ordre de la sexualité, des menstruations, avec aussi, pour certains, l'idée que lorsqu'il y a du sang et qu'il y a une relation sexuelle, qu'il y a perte de la virginité et qu'il y a ensuite les règles, la femme devient impure. En sachant que c'est souvent la femme qui est désignée comme le problème et l'objet du problème, sur le plan historique.
Et avant l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, l'interdit était au centre de la théorie freudienne. Qu'a voulu dire Freud en parlant de tabou ?
Alors, la notion de tabou, c'est une notion fondamentale qui permet vraiment d'organiser, de structurer une société autour d'un interdit. Et dans la théorie freudienne, c'est l'interdit de l'inceste qui fonctionne comme un tabou, c'est-à-dire un interdit fondateur pour structurer une société et organiser finalement, alors pas seulement le mariage, les relations entre les êtres humains et sortir de cette endogamie consanguine qu'est la famille en structurant le concept d'Œdipe tout simplement. Vous savez que dans l'histoire d'Œdipe, Œdipe finalement un peu à son insu va tuer son père sans le savoir, son père biologique, va épouser sa mère biologique Jocaste sans le savoir toujours. Et au moment de la révélation de cet inceste et de cette union contre nature qui vient enfreindre le tabou de l'inceste, Jocaste, sa mère, se suicide et Œdipe va se mutiler les yeux et se rendre aveugle. Donc avec vraiment cette métaphore autour de l'aveuglement de la vérité, de l'inceste, et cette horreur morbide et mortifère, alors pour la mère, mais aussi qui renvoie à la question du nom, de l'honneur, de la descendance. Et donc du coup, à partir de ce concept du complexe d'Œdipe, qui renvoie au désir inconscient de l'enfant d'avoir une relation privilégiée et sexuelle avec le parent du sexe opposé, Freud va structurer sa théorie autour du complexe d'Œdipe, de la sexualité infantile, de l'interdit de l'inceste, de la triangulation avec la fonction paternelle, le père qui aurait cette fonction tierce de séparation entre l'enfant et la mère. En sachant que là, précisément, quand le père vient au contact de l'enfant, non pas pour séparer, éventuellement dans ce désir incestueux, mais pour porter atteinte au sexuel et à la construction de l'enfant dans son développement sexuel et affectif, c'est pour moi enfin, une triple trahison. Si on reste sur ce modèle théorique, c'est la trahison dans la fonction paternelle de triangulation, de séparation du parent et de l'enfant. Et là, au contraire, le parent vient coller au fantasme et en écho de l'enfant. Et c'est une catastrophe puisque l'enfant ne pourra pas se séparer et du coup aller rencontrer quelqu'un d'autre en dehors de la famille. C'est une catastrophe parce que l'adulte doit apporter de la sécurité à l'enfant. Et il y a parfois cette espèce de confusion autour d'une demande d'affection et de sécurité avec une réponse d'un adulte proche, un parent qui vient apporter du sexe et de la sexualité, de l'excitation. Et donc là, ça entraîne toujours des conséquences dramatiques dans la confiance en soi, la confiance aux autres et la confiance dans les adultes. Et puis enfin, dans le contrat, j'allais dire, familial d'un couple parental, lorsqu'un des deux parents se tourne vers un des enfants, c'est encore la trahison du contrat, j'allais dire, original dans l'engagement de la relation entre adultes consentants.
Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quelles que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa.
Comme le chante si bien Delphine Séric dans Peau d'âne. Et l'inceste est puni. À l'époque de Charlemagne, l'inceste, c'est la peine capitale. La Révolution française le dépénalise, ce n'est plus un crime, sauf s'il y a viol. Aujourd'hui, l'inceste est considéré comme le facteur aggravant d'une agression sexuelle. Comment vous définissez-vous l'inceste, Mathieu Lacombre ?
Alors, sur le plan clinique, pour nous, soignants, c'est une relation sexuel érotisé, on parle de climat incestueux, de relations incestueuses, érotisé, génitalisé entre un adulte et un enfant avec un lien qui s'inscrit dans une dimension affective, morale, imaginaire ou symbolique de parenté. Aujourd'hui, la famille a évolué et on le voit dans nos consultations. Elle est remodelée, elle est remaniée, mais le lien est très très fort entre certains enfants et certains adultes, et ça renvoie directement à cette notion, encore une fois, affective et d'engagement autour d'un lien de parenté. En sachant que sur le plan aussi étymologique, l'inceste renvoyait à des relations particulières, par exemple, entre un confident et un prêtre à la confession, c'était une relation sur le plan étymologique qui était qualifiée d'incestueuse. Donc à chaque fois qu'il y a un cadre particulier d'une relation entre un adulte et un enfant avec un lien affectif fort, on peut la caractériser pour nous sur le plan clinique d'une relation incestueuse ou incestuelle intergénérationnelle Mais il y a aussi l'inceste entre frères et sœurs, c'est-à-dire dans une même génération, qu'on qualifie d'inceste adelphique, qui, celui-là aussi, est un véritable problème et vient altérer la qualité des interactions et des relations de la même génération, mais aussi la construction du sujet et l'estime de soi.
Est-ce que dans tous les cas, il y a une question de domination, une domination entre un adulte et un enfant, ou bien, comme vous le décriviez à l'instant, entre un frère et une sœur, ou une sœur et un frère?
Oui, il y a un enjeu autour de la domination, et d'ailleurs, on est plus fréquemment dans une relation père-fille ou belle-fille, beau-père, donc dans la continuité finalement et le prolongement de nos sociétés très patriarcales en Occident, qui donnaient le pouvoir aux hommes, bien qu'il y ait évidemment de l'inceste au féminin.
C'est quoi? C'est de la toute-puissance?
C'est une forme de toute-puissance ou d'affirmation d'une domination. Alors il y a différents types de glissements qui vont vers des passages à l'acte sexuel d'un parent vers un enfant. Mais globalement, on est dans cet écho finalement de la domination et du pouvoir de l'adulte sur l'enfant. En sachant qu'il y a des situations où chacun vient trouver une forme, je mets des guillemets, de réconfort dans une relation affective qui va basculer du sensuel au sexuel à partir d'un sentiment qui est parfois un peu flou, mais qui renvoie à cette notion d'Œdipe bien décrite par Freud, avec cet intérêt, ce fantasme finalement de séduction de l'enfant du parent opposé. Il y a souvent un malentendu aussi autour de la question de la sexualité infantile. Freud, c'est aussi, je mets des guillemets, mais la découverte, c'est-à-dire la théorisation d'un intérêt sexuel des enfants autour de la découverte de leur appareil génital, d'abord sur des éléments un peu physiques, mécaniques, et qui va être ensuite un support de relations et d'interactions, mais qui rentre aussi en écho avec cet Œdipe. Et lorsque l'enfant se trouve excité, d'un point de vue un peu mécanique, dans ses étapes de découverte de son propre corps, et que l'adulte là intervient dans cette dimension génitale et sexuelle et intime, il se noue, encore une fois, une forme de destruction, mais vraiment intérieure, de l'enfant autour de l'accès à sa propre sexualité et de son estime, sa propre estime, de la confiance qu'il pourrait avoir en lui-même et envers les adultes, et de l'accès ensuite à la sexualité, à la génitalité et aux interactions sociales de manière plus générale.
Et la domination, c'est aussi l'empire du silence. C'est quand même l'un des crimes les plus réprouvés, mais aussi les moins révélés.
Alors malheureusement, parce que l'adulte réduit au silence, il y a une notion, j'allais dire, d'emprise naturelle qui apparaît légitime, ce qui est fait quoi? La domination de l'adulte sur l'enfant. Mais en plus, dans une relation affective privilégiée, où on vient renvoyer à l'enfant l'illusion qu'il serait l'élu. J'ai plein de situations absolument horribles comme ça, où l'enfant est bercé d'illusions pendant un moment sur cette idée qu'il aurait été choisi, désigné, élu par le parent, et qu'ils vont partager ensemble ce secret qui participe de la destruction finalement de l'enfant et de cette forme de dimension très très morbide et mortifère. C'est pourquoi cette notion de crime, elle est importante, qui renvoie ensuite à cette notion de cadavre, puisque l'enfant devient quasiment un zombie, un mort-vivant. Donc c'est un meurtre, voire un assassinat lorsque c'est prémédité, réprouvé parce que dans le tabou inscrit dans notre ADN anthropologique, mais le moins révélé parce que l'enfant est réduit au secret dans cette relation d'emprise envers le parent et de loyauté.
Oui, car rares sont ceux qui osent prendre la parole. Et en tout cas, c'est assez récent. La première victime à dire les choses face caméra, c'est Eva Thomas, violée par son père à l'âge de 15 ans. En 1986, elle témoigne dans les dossiers de l'écran sur Antenne 2 et c'est le feu au standard de l'émission. Un père s'indigne, j'ai des relations quotidiennes avec ma fille de 13 ans. Pourquoi voulez-vous empêcher les gens d'être heureux ? Aujourd'hui, franchement, personne n'oserait dire ça. C'est tout de même un... Alors, est-ce qu'on peut le qualifier de progrès ou d'évolution ?
Alors, au moins une évolution. C'était il y a 40 ans, c'était il n'y a pas si longtemps, de génération. Et on doit se réjouir aujourd'hui de considérer que c'est un véritable problème. J'allais dire un fléau, et pour moi un problème de santé publique, toutes les violences sexuelles sur les mineurs. Mais l'inceste en particulier, parce qu'il se joue dans l'espace clos de la famille, dans ce secret, ce silence, et le simple fait qu'on puisse l'envisager, notre société, et que les familles puissent l'entendre et le penser, c'est autoriser l'enfant à le révéler. Donc c'est un progrès majeur et massif. Et qu'aujourd'hui, la honte et la culpabilité se déplacent du côté des auteurs potentiels, c'est-à-dire que ça ne serait pas possible pour un père de faire cette déclaration aujourd'hui, parce que ça serait simplement la honte, l'humiliation, il s'attirait les foudres de notre société. Donc l'évolution, elle est là, et c'est tant mieux, on doit s'en réjouir.
Et cette domination dont on parlait tout à l'heure, elle s'étend aussi à ceux qui savent. Camille Kouchner, elle est la première à dévoiler l'inceste subi par son frère. C'est un secret qui l'empêche de vivre. Elle parle même d'une hydre qui envahit tout son espace émotionnel. Je vous propose de réécouter ce que disait Emmanuel Macron le 23 janvier. Le président avait tenu à prendre la parole sur ce thème de l'inceste.
La honte aujourd'hui change de camp. Et à vous qui vous êtes libérés d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésiter, je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit.
Au fond, c'est pas tant la parole qui se libère que l'écoute qui se libère.
Alors oui, c'est une hypothèse, là aussi, on l'évoquait tout à l'heure. Notre société, aujourd'hui, à la faveur d'un certain nombre de mouvements et grâce au développement des réseaux sociaux, développe une attention, un intérêt et une écoute, finalement, pour ce phénomène. Alors, entendre, c'est bien, agir, c'est mieux. Et donc, du coup, tout l'enjeu, c'est de pouvoir accueillir cette parole, s'en saisir, accompagner toujours d'abord toutes les victimes, les enfants, les protéger les plus vulnérables, mais aussi accompagner ces auteurs de violences sexuelles, parce qu'un parent incestueux, c'est un auteur de violence. Et donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir apporter une solution globale, et notre société aujourd'hui est probablement dans la phase de prise de conscience, d'écoute, avec une sorte quand même de sidération anxieuse, pour pouvoir accueillir cette parole. La libération de la parole, c'est un long et lent processus qui est parfois douloureux et difficile pour les victimes elles-mêmes. Et on ne peut pas obliger quelqu'un à dire et à parler. C'est absolument contre-productif et c'est une nouvelle forme de violence qui lui serait faite. Et donc lorsque Camille Kouchner là, parle de la situation de son frère, c'est avec son accord et son autorisation. Sinon, elle aurait forcé de nouveau les choses et c'est une nouvelle violence qui peut être faite à la victime.
Il a touché ma joue dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'est revenu. Dis l'oiseau, on dit en mer.
Cet aigle noir qui surgit du passé dans la chanson de Barbara, c'est son père qui a abusé d'elle. Elle n'en a jamais parlé de son vivant et ses fans qui ont adoré cette chanson ne le savaient pas. Elle est partie avec son secret. Camille Kouchner, elle, a mis 31 ans à en parler, mais elle a vaincu l'hydre.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL, sur Audio Now et sur toutes vos plateformes préférées.